On va vous raconter une histoire d'amour, une histoire de séduction, une histoire de relations à nouer, de flammes à entretenir, parfois une histoire de séparation. L'histoire, en fait, qui relie une entreprise à ses collaborateurs. Et cette histoire, on va la raconter grâce à des témoignages de DRH et d'experts qui ont accepté de partager leur expérience avec beaucoup de générosité et beaucoup de sincérité. Ils l'ont fait lors d'une matinée organisée par l'entreprise du futur et l'ANDRH Rhône et Ain, matinée dédiée aux grands enjeux RH des entreprises, matinée qu'on vous propose de revivre maintenant. Dans les épisodes précédents, on a parlé attractivité, séduction, recrutement. On va continuer encore un moment sur cet enjeu crucial qu'est le recrutement pour nous interroger cette fois sur l'usage de la donnée, de la data. La data pour recruter plus vite et mieux, la data pour trier les CV, la data pour savoir où aller chercher les talents, pour savoir quelle stratégie de sourcing mettre en place. Voilà ce dont on va parler maintenant avec Éric Gras, spécialiste du marché de l'emploi chez Indeed, et Kitri Vanoeno, en charge de la stratégie de sourcing pour toutes les marques du groupe Adecco. La data au service du recrutement. Éric, on parle intelligence artificielle, tri des CV. Jusqu'où est-ce qu'on va aujourd'hui, jusqu'où est-ce qu'on peut aller d'après vous? On voit des candidats qui passent des entretiens d'embauche en visio avec des intelligences artificielles. On en est là, ça commence.
Ouais, ça peut faire peur. La data a ses limites, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et souvent on demande à Indeed d'intervenir sur ce sujet-là. Il y a une chose qu'il faut retenir, et de tout ce qui a été dit déjà depuis le début de la matinée, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit servir l'humain. Par contre, la fonction RH, la fonction de recrutement, parfois est très dure et ingrate. En fait, il y a plein de tâches. Quand j'entendais tout à l'heure, moi je reçois trop de CV, je ne peux pas répondre. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. Pendant des années, la plupart des entreprises et moi, je reçois trop de CV, donc je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à tout le monde. Ok, sauf quand c'est vraiment B2C et que ces candidats potentiellement sont mes clients, il y a un degré d'attention un peu plus important. Et aujourd'hui, la plupart des recruteurs disent « Bah, moi je contacte des candidats, je fais de la chasse, même pas ils me répondent. » Et ouais, on a les candidats qu'on mérite. Donc l'intelligence artificielle, oui, jusqu'à un certain seuil. Donc tout ce qui peut être automatisé, automatisable, ça peut permettre, parce qu'on ne peut pas recruter du jour au lendemain 30 recruteurs en plus pour recruter des nouveaux talents, c'est compliqué. Donc ça, oui. Par contre, il faut savoir que l'intelligence artificielle est paramétrée par des humains. Et que l'humain a des biais. Et donc, la grosse difficulté...
Elle aura les mêmes.
La grosse difficulté, c'est d'injecter consciemment ou inconsciemment dans cette intelligence artificielle les biais que l'humain a. Et donc, nous, ce qu'on défend, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, de diversité, d'inclusion, etc., notamment sur un marché tendu, de recruter beaucoup plus sur les aptitudes et le potentiel des candidats que sur ses compétences et sur un CV. On a même mis en place, alors on l'avait testé avant le Covid et du coup on s'est dépêché avec le Covid à le mettre en place parce que notamment aux États-Unis, du jour au lendemain, des centaines de millions de personnes ont perdu leur emploi. Et en France, on a vu que on a été quand même assez préservé, mais beaucoup de gens ont été impactés. Un outil qui permet en fait de recruter les gens sans CV.
Donc il y a, ce qu'on regarde, c'est l'adéquation entre les besoins et les compétences, donc beaucoup plus de diversité.
En fait, le rêve du fondateur d'Indeed, il y a 18 ans, c'était en un clic, est-ce que je peux trouver mon emploi? Et nous, l'objectif, c'est de dire en un clic, je vais rencontrer le recruteur. La plus grosse barrière qu'il y a aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre, c'est tout le début du process de candidature. Donc déjà, la difficulté, c'est de trouver le bon job quelque part qui me correspond. Après, d'atteindre le bon recruteur. Et ensuite, de dire que je ne suis pas un CV. Il y a un hashtag qui existe, il y a même un site qui existe. Le CV ne résume pas ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai commencé ma carrière en 1998 chez Adecco, qui m'a beaucoup appris. Après, j'ai fait plein d'autres choses. Mais ce que je suis aujourd'hui est différent de ce que j'étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Et donc, si je confie qu'il y a un algorithme qui va analyser mon CV, on le voit parfois, désolé s'il y a des gens de Pôle emploi ici, mais... Pôle emploi, quand il analyse ce qu'il y a sur votre CV, va vous proposer un job parce que vous avez un CAP de boucher en disant, ben voilà, on manque de boucher, vous avez un CAP de boucher. Oui, sauf que c'était il y a 25 ans et en fait, j'ai jamais exercé la profession de boucher. Donc, cette intelligence artificielle peut avoir des risques. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est 1 à 5 critères qui sont les compétences ou les aptitudes indispensables pour obtenir un poste. Donc, pour tenir un emploi chez La Vie Claire, chez Edenred, etc., au-delà de la fiche de poste et des offres d'emploi, on voit une liste à rallonge de compétences demandées. C'est quoi la ou les 2 ou les 3 compétences indispensables vraiment pour avoir ce poste-là? Le reste, on peut l'acquérir peut-être avec de la formation. Le candidat voit cette offre d'emploi. S'il correspond aux critères demandés, il va rencontrer directement en visio le recruteur. Et le recruteur...
Et le rendez-vous se fait ultra facilement en mode Doctolib, quoi.
Exactement. Enfin,
pardon.
Mais c'est exactement ça.
D'accord.
En fait, c'est un mix entre Tinder,
c'est ça.
Google, Doctolib. Donc, le recruteur met ses dispos. Donc, moi, recruteur, je suis dispo tel jour, de telle heure à telle heure, etc. Des premiers entretiens qui durent en général 15 minutes, 20 minutes. L'objectif, c'est la première rencontre. Le candidat de l'autre côté, lui, valide son parcours. Ça match ou ça matche pas. Et si ça match, je vois tout de suite en visio, tel jour, à telle heure. Et on s'occupe, nous, de tout ce qui est relance du candidat en amont. Donc, c'est un gain de temps énorme pour le recruteur. Pour le candidat, eh ben, il n'a même pas eu à présenter son CV, qu'il va rencontrer le recruteur, il va pouvoir défendre sa candidature. Et 9 fois sur 10, ce qui se passe, on parlait de la marque employeur, c'est que le candidat se renseigne aujourd'hui sur la marque employeur avant.
Donc avant le rendez-vous Doctolib,
bien sûr,
entre les deux, il va aller regarder.
Et il va regarder notamment la cohérence entre le discours du recruteur, ce qu'il peut voir sur site carrière, et les avis qu'il va trouver notamment sur Indeed ou Glassdoor, pour voir s'il y a une vraie cohérence entre ce que les collaborateurs, ex-collaborateurs d'une entreprise disent de l'entreprise et ce que l'entreprise dit d'elle-même.
Ça va vite, hein, ça accélère. Hein. Et alors, évidemment, donc, ça va vite, ça aide à recruter plus vite, mieux. Mais si je puis dire, il faut aussi réussir à faire un peu le chemin dans l'autre sens grâce à la data, c'est-à-dire savoir exploiter les données qui sont apportées par les candidatures pour savoir en fait d'où elles viennent, ces candidatures. Et ça, c'est un peu l'autre thématique qui est liée à la data, mais c'est vraiment passionnant, c'est-à-dire s'en servir pour mieux recruter, avoir une stratégie de recrutement efficace, savoir d'où viennent les candidats dont on a besoin. C'est ce qu'on appelle le multi-sourcing. Je voulais juste vous montrer cette petite infographie parce que le baromètre de l'entreprise du futur, justement, il a bien confirmé que la stratégie de recrutement des entreprises, elle était devenue multi-sourcing. Donc, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ça. Kitri, vous, quand vous êtes arrivé chez Adecco, donc où il n'y a pas du tout que la marque Adecco, votre premier chantier, ça a été justement de changer du tout au tout cette stratégie de sourcing.
C'est ça. Marque Adecco, en fait, on connaît la marque rouge qui intervient pour des postes de techniciens, employés, ouvriers, etc. Mais c'est aussi des aides-soignants, des infirmiers chez Adecco Médical, cabinet de recrutement Spring et Bannock jusqu'aux fonctions de direction. Et puis à Codis, sur les fonctions de profil de développeur. Donc on couvre un scope très très large sur le marché de l'emploi et du sourcing candidat. Et ma première mission a été de savoir où chercher nos candidats pour pourvoir les missions de nos clients. Donc c'est à peu près 50 000 postes ouverts tous les jours. Donc un volume de candidatures énorme et des investissements énormes également. Et donc ce qu'on a mis en place, c'est une méthode de tracking qui nous permet de savoir la provenance de tous les candidats qu'on reçoit tous les jours, de les intégrer dans notre ATS et ensuite de suivre la progression de ces candidatures dans tout le processus de sélection. Ce qui nous permet aujourd'hui de savoir sur quel canal chercher ces candidats, quels sont les canaux qui sont les plus performants, quels sont ceux qui nous apportent plus de volume de candidatures, mais surtout ceux qui nous apportent des candidatures de qualité, c'est-à-dire ceux qu'on va rencontrer en entretien, ceux qu'on va présenter à nos clients et ceux qu'on va mettre à l'emploi au final. Et donc cette méthode de tracking qui est assez accessible, hein, avec des Google Tag Manager ou des UTM, enfin, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place et à connecter à un ATS, nous permettent aujourd'hui de faire des investissements raisonnés sur une logique
ROI. C'est ça, d'investir au bon endroit.
Exactement.
Pour tel type de profil. On ne va pas chercher au même endroit tous les profils dont on a besoin.
C'est ça. Et de diversifier aussi tous nos canaux d'acquisition de candidats en fonction des résultats qu'on obtient sur ce tracking.
Et je crois aussi que il y a autre chose que vous avez changé qui était le côté je paye pour voir, c'est-à-dire
la fameuse technique du post and pray.
C'est ça.
Exactement. En fait, on a un marché en France qui est assez éclaté, avec un mix média qui est très important. On a beaucoup de job boards en France, ils sont encore très importants. Et puis il y a une multitude d'autres acteurs dans l'activité du sourcing et de l'acquisition candidat,
qui sont peu exploitées. C'est plus éclaté qu'ailleurs ?
Plus que dans les marchés anglo-saxons, par exemple, D'accord. où c'est beaucoup plus concentré. Mais en France, on a encore beaucoup de job boards spécialisés par secteur d'activité, par type de métier, etc. Quand dans d'autres marchés, c'est beaucoup plus centralisé, beaucoup plus, par mix produit, beaucoup plus restreint. Et donc, un autre des chantiers qu'on m'a confié, c'est de changer cette stratégie du fameux post and pray et d'arrêter de payer pour voir. Puisqu'en gros, c'est le modèle des job boards. Je paie pour diffuser mon annonce et je vais attendre de voir si j'ai les bons candidats. Et aujourd'hui, il existe d'autres méthodes, et notamment Indeed nous a accompagnés là-dessus, sur une logique à la performance. C'est-à-dire, je ne paie plus pour voir, je paie pour les candidatures que je recevrai réellement et celles qui m'intéressent, que je mettrai à l'emploi. Et donc ça a été toute un gros changement chez Adecco, un gros changement aussi dans la culture de nos agences, hein, parce que nos directeurs d'agence, nos recruteurs sont habitués à aller diffuser leur job sur Cadre Emploi, sur Job Transport, etc. Donc des habitudes qui sont très ancrées. Et là, on leur demandait de nous faire confiance, et grâce à cette analyse héroïste, de leur dire, mais en fait, les canaux aujourd'hui qui vont nous apporter les candidatures qu'on recherche, elles fonctionnent à la performance, c'est-à-dire qu'on va aller sponsoriser un très grand nombre d'annonces sur des sites comme Indeed, des agrégateurs d'offres d'emploi, mais aussi des réseaux sociaux, du Google, etc. Donc avoir vraiment une logique mix digital marketing, sur lequel on va payer uniquement pour les candidatures qu'on reçoit. Et l'autre avantage de ces techniques-là, c'est que grâce à la data, on va pouvoir piloter nos investissements en fonction de nos priorités business et en fonction du volume de candidatures qu'on va pouvoir placer. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus agile que l'ancien modèle à la consommation, où je vais pouvoir décider de mettre un focus sur les postes en supply ou en production, ou de mettre un focus sur telle ou telle région en fonction de mes priorités business.
Quel conseil vous donneriez aux entreprises elles-mêmes sur la stratégie de sourcing qu'elles doivent avoir ? Comment il faut y penser ?
Exactement l'exemple que Kitri vient de citer. Indeed est présent dans plus de 60 pays à travers le monde, donc ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs. La différence majeure entre les pays anglo-saxons et la France, c'est que la France est toujours en retard parce que quand il y a une innovation, on est toujours méfiant. Et donc on observe, on regarde, on se dit « Ouais, ça a l'air bien, mais j'attends que ça fasse ses preuves. » Et puis une fois que les leaders ont pris le truc, ben on suit derrière. Aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre, ils sont beaucoup plus cash. Il y a un nouveau modèle, on regarde si ça fonctionne, on le teste tout de suite. Ça fonctionne, je prends ce modèle, je lâche l'ancien. Et donc ce que disait Kitri est très vrai, c'est-à-dire que pourquoi en France, beaucoup d'entreprises me disent « Moi, je travaille encore, je ne vais pas les citer, mais avec tel, tel ou tel site. » Je dis « Ok, très bien, vous dépensez de l'argent chez eux, oui. Et ça vous rapporte quoi ?» Je sais pas, mais je crois que ça marche.
Donc déjà, c'est juste commencer par vérifier.
Vos budgets ne sont pas extensibles. Votre énergie n'est pas extensible. Donc si vous voulez être plus efficace possible, je parle d'Indeed, mais ça peut être n'importe qui d'autre, savoir où sont vos candidats. Quand vous développez une stratégie pour acquérir des clients, vous vous intéressez à votre marché. C'est qui mes clients ? Qu'est-ce qu'ils consomment ? Ils sont où ? Pour leur offrir le meilleur produit ou le meilleur service possible. Vos candidats, il faut les traiter comme vos clients. Ils sont qui ? Leurs attentes ont changé. Leurs habitudes ont changé. Aujourd'hui, près de 70% des candidats consultent les offres d'emploi à travers un smartphone. Est-ce que vous avez juste pensé à ça quand vous lisez vos offres d'emploi ? Quand vous les relisez sur un ordinateur, essayez de relire votre offre d'emploi sur un smartphone, vous allez voir à quel point elles sont illisibles pour rester poli, pour ne pas dire indigeste. Donc, pour avoir la meilleure stratégie possible, il faut se doter d'un ATS, de différents outils, pour traquer. Et une solution qui est valable à un instant T peut très bien ne plus l'être 6 mois après et la redevenir 1 an plus tard. Parce que le marché bouge très vite et donc il faut être le plus agile possible pour être le plus efficace possible et optimiser vos investissements le mieux possible.
Et savoir peut-être mettre à jour plusieurs fois par semaine une offre, la basculer d'un endroit à un autre. Savoir réagir en fait.
Ouais, c'est ça. Faut être aussi agile que les candidats le sont. Alors, il y a en plus deux types de candidats. Il y a ce qu'on appelle les candidats actifs et les candidats passifs. Dans un marché tendu, parce qu'on a basculé d'un marché de sélection à un marché de séduction des candidats, les candidats ne sont pas tous aussi réactifs à lire vos offres d'emploi. Le candidat passif, celui qui est en poste, qui est un peu en veille, qui regarde ce qui se passe sur le marché, lui, il va peut-être regarder une fois par semaine, une fois par mois, voire une fois tous les 3 mois. Un candidat actif qui a vraiment besoin de trouver un boulot, il va regarder ses alertes tous les jours. Donc là aussi, dans la stratégie, il faut s'adapter à la typologie des candidats pour savoir qui ils sont, comment ils se comportent, Il y a plein d'outils. On a fait un webinaire avec Médiamétrie qui était très intéressant pour voir les évolutions, justement, comment les gens se comportent.
Médiamétrie, donc on parle d'audience.
Oui, bien sûr. Bah, nous, on mesure, nous, on mesure l'audience comme Médiamétrie. Nous, on mesure notre audience 6 fois par jour.
D'accord.
Et donc, quand un client nous confie son budget, selon qu'il recrute ce profil à Paris, à Lyon, à Marseille, les audiences ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes. Selon qu'on tombe sur un mois de mai où il y a des ponts, pas de ponts, etc., voilà, le budget ne va pas se dépenser du tout de la même façon. Quand vous dépensez votre budget à la télé, vous avez ce raisonnement de dire « mon audience, est-ce qu'elle est à telle heure et donc il faut que j'investisse 100% de mon budget au moment où il y a Koh-Lanta parce que je vais toucher 100% de ma cible ?» Ou est-ce que je mets 100% de mon budget sur toutes les chaînes de la TNT ? Oui, alors vous allez dépenser votre budget, mais vous n'allez pas toucher votre audience parce que vous serez aux heures creuses sur toutes les chaînes de grande écoute, quoi. Voilà.
Tout ça en ayant bien en tête aussi que les candidats potentiels, ils n'ont pas non plus envie d'être harcelés, entre guillemets, de recevoir des offres 25 fois par jour. Ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte.
Aujourd'hui, c'est le candidat qui choisit. Le candidat veut avoir la main. Et donc, nous, par exemple, dans notre CVTech, avant, notre CVTech était ouverte. Et on s'est rendu compte que les meilleurs talents partaient. Parce qu'en fait, ils étaient harcelés par les recruteurs. Et donc, on a mis en place une espèce de système de bonus-malus qui récompense les meilleurs recruteurs. Et plus l'approche est ciblée, personnalisée, plus les taux de réponse sont élevés. Et donc, le candidat ne reçoit que des réponses de qualité et donc garde son CV dans la CVTech. Voilà, c'est l'exemple parfait où, en fait, nous, on est candidat focus. On s'intéresse, notre vrai client, c'est le candidat. Le jour où le candidat ne vient plus sur notre site, on n'a plus de raison d'être.
Ouais, trop de sollicitations, il s'en va, quoi.
Exactement.
Qui trie ?
Je confirme.
Confirmez ça aussi, vous l'observez. Et les entreprises en ont conscience ou pas ?
Le sujet de la marque employeur commence maintenant à se diffuser et on voit chez nos clients qu'il y a une prise de conscience de l'intérêt de travailler sa marque employeur. Cela dit, je confirme ce que dit Eric, un candidat à 95% du temps se renseigne sur une entreprise avant de déclencher une postulation. Donc on est vraiment dans un marché d'attraction et ça nous force, nous, à repenser toute notre manière de contacter le candidat avec une approche personnalisée et adaptée.
Eh bien, merci vraiment à tous les deux. Restez là peut-être juste encore 2 minutes parce que est-ce que certains d'entre vous auraient une suggestion, un témoignage ? Oui, monsieur, je vais vous laisser vous présenter du coup.
Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Franck Eglose. Je suis super content d'être venu ce matin parce que j'ai appris quelque chose qui est extrêmement important pour ma société. C'est que toutes les entreprises, même les petites, 98% des entreprises sont des toutes petites entreprises, ont besoin d'un ATS. Et je suis super content parce que je suis éditeur d'ATS. Alors j'ai une question à poser à Adecco. Vous parliez tout à l'heure de payer les candidatures reçues, finalement c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner en moyenne le prix d'une candidature reçue pour Adecco ?
C'est extrêmement variable et puis en fait c'est un marché d'enchères. Plus une candidature est recherchée, plus elle va coûter cher. Je vous donne un exemple. Avant la crise du Covid, un CV d'une aide-soignante ou d'une infirmière coûtait dans l'environ de 5 euros, 7 euros. Pendant la crise, on est monté à 80 euros du CV. Donc c'est vraiment un marché qui fluctue en fonction de l'offre et la demande. Plus il y a de concurrence, c'est-à-dire plus il y a d'offres d'emploi pour un même profil publié, plus les candidats sont sollicités, plus la candidature va coûter cher.
Par rapport à l'industrie, est-ce que vous avez un chiffre ? Parce qu'on est dans le domaine de l'industrie.
Ce serait vraiment très très difficile de vous répondre parce qu'il va y avoir des différences en fonction des niveaux de poste, de l'expérience, de la localisation du poste, etc. Donc le meilleur moyen, c'est évidemment de travailler avec des gens comme Indeed qui eux ont une énorme base de données et qui vont pouvoir vous accompagner là-dessus. En fonction de la période de l'année, ça va changer aussi. Mais c'est un indicateur clé en fait quand on mène une campagne de recrutement, c'est ce qu'on appelle le CPA, le coût d'acquisition au candidat. Et c'est l'indicateur le plus important quand on décide d'investir de l'argent pour aller sourcer des candidats.
On publie chaque année ce qu'on appelle un performance report. On est, nous, dans l'objectif d'être en totale transparence justement avec les données, les datas, pour que ça bénéficie à l'ensemble du marché. On tarde un peu à publier cette année sur l'année précédente parce qu'avant, on pouvait avoir une moyenne marché. Donc on a des prix moyens qui ressortent par industrie, par métier et par région, parce qu'en effet, les prix ne sont pas les mêmes, les tensions ne sont pas les mêmes selon les régions. Le marché change tellement vite que là, on a du mal à donner un chiffre, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, si on prend juste l'exemple de l'année dernière, le marché était en légère progression jusqu'à l'été, le marché a explosé à partir du 15 août, s'est légèrement ralenti au 15 décembre et a refait un pic énorme depuis le 15 janvier. On a aujourd'hui 40% d'offres d'emploi en